Session théologique sur le mystère du Christ par le Père Philippe, le 24 août 1989, à Saint-Jeudas.
J'espère que vous n'avez pas trop chaud et que l'intellect reste encore assez objectif. Alors, quelques questions auxquelles je réponds rapidement. Que voulez-vous dire quand vous dites « Le Christ m'est donné mystiquement dans l'Eucharistie » ? Mystiquement, justement, il m'est donné réellement. Mystiquement ne s'oppose pas à réel, mais s'oppose à visible. La charité, tout ce qui est fait dans la charité est réalisé mystiquement. Le mot mystique a des sens très très variés, mais j'emploie dans le sens où saint Thomas le dit, et je crois que c'est bien de maintenir ce sens. Mystice. Donc le Christ m'est donné dans la charité. L'Eucharistie est donnée aux croyants, à celui qui croit, à celui qui espère, à celui qui aime. C'est un sacrement des vivants. Alors, par le fait même, il est donné à celui qui aime, qui croit et qui aime. C'est pour ça que je dis, il est donné mystiquement. Et quand vous dites que le Christ m'est donné d'une manière nouvelle, oui, le Christ me permet de comprendre la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, elle est dans le corps et le sang du Christ. Tandis que la première alliance était donnée dans la loi. Il peut y avoir une alliance dans la parole de Dieu. Dans l'ancienne alliance, c'est la parole de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, la nouvelle alliance, c'est dans le corps et le sang du Christ qui m'est donné. Selon cette manière sacramentelle qui est une intentionnalité divine en vue de la patrie. Je ne m'arrête pas aux sacrements. J'utilise les sacrements comme des moyens divins, merveilleux. Que signifie l'expression « pain des anges » ? Je comprends. C'est pas du tout pour les anges. Ça veut dire que c'est donné d'une façon divine, spirituelle, mystique. C'est pour ça que j'aime mieux dire mystique que pas des anges. Je n'emploie jamais, moi, pas des anges. Mais au Moyen-Âge, panis angelorum, ça va très bien en latin. En français, ça va pas du tout. Panis angelorum, vous chantez ça. Sans comprendre très bien ce que vous dites, c'est pour ça que ça passe si bien. Le pain des anges, c'est très beau du reste. C'est pour montrer que c'est le pain de la contemplation. Les anges sont des contemplatifs. L'insensibilité après la souffrance, pourquoi ? À cause de la lutte. Quand vous avez beaucoup pâti, il risque d'y avoir une insensibilité. Ce n'est pas une conséquence nécessaire. Mais vous voyez, c'est ce fait que nos sens ne peuvent pas supporter certaines limites. Vous ne pouvez pas regarder le soleil. Ne le faites pas. Hein. C'est mauvais pour votre vue. Parce que votre vision, elle est faite pour une certaine lumière. Et quand il y a une intensité trop grande de lumière, vous pâtissez. Et vous risquez de ne plus avoir la même sensibilité. Saint Thomas fait cette comparaison et cette opposition entre la sensibilité et l'intelligence. Il dit, plus vous regardez une réalité intelligible, Dieu, plus vous devenez intelligent. Tandis que pour les sens, si vous bâtissez trop, vos sens diminuent. C'est très beau. Mais il y a une loi inverse. Quand vous bâtissez trop, et c'est vrai, quand vous bâtissez de trop, vous touchez une plaque trop chaude. Qu'est-ce qui se passe? Vous souffrez, mais votre toucher pâtit. Après, vous ne pouvez plus toucher. Avant que ça se revienne, la peau est brûlée. La sensibilité est brûlée. Vous avez des cloches énormes qui poussent. Et elles ne sont pas sensibles. Et c'est même dans tout l'ordre de la sensibilité affective, passionnelle. Une passion trop forte, trop violente, eh bien risque de tuer. Petite expérience que je vous donne. J'ai toujours remarqué qu'une vie monastique et religieuse nous rend beaucoup plus sensibles. Augmente la sensibilité. Pourquoi? Parce que justement, on ne vit pas d'impressions trop violentes. Dans le monde aujourd'hui, on excite. On fait passer à des choses très violentes. Et au bout d'un certain temps, ça tue la sensibilité. Je crains beaucoup que certaines musiques tuent la sensibilité. Il faut qu'à partir de là, on aura des apaches, des sauvages. Notre monde ne devient pas plus intelligent. Tandis qu'une sensibilité qui est toujours ordonnée à un amour spirituel est une sensibilité qui s'aiguise. On devient beaucoup plus sensible à la nature. La lumière, au coucher de soleil, au lever, alors qu'avant, gardez pas beaucoup. Donc, après la souffrance, après qu'on a pâti trop, il y a un moment d'insensibilité. Parce que toutes nos sensations impliquent un organe sensible. Et quand cet organe sensible a été trop violenté, il a trop pâti. Il ne répond plus. C'est comme un chien qu'on a battu toute sa vie. Et on voit tout de suite. C'est comme le gosse. Dès qu'on s'approche de lui, il lève la main. Il a été battu toute sa vie. Alors il n'a pas du tout l'accueil. Il a peur. L'insensibilité. Pourriez-vous reprendre le problème, la problématique entre Panji et l'Eucharistie? Je veux bien, je vais le faire très rapidement, ça recouvre d'autres questions. Alors je vais le faire après au terme. Pourriez-vous repréciser la différence entre analogie propre et analogie métaphorique? Oui, ça je veux bien le faire rapidement. Dieu est bon. Ce chien est bon. Le chien de Toby était bon. Bon est attribué à chien, vous mettez entre deux l'homme, cet homme. Je ne dis pas l'homme est bon, mais cet homme, ce qu'il est bon, est bon. La abondé est attribué analogiquement, selon une analogie propre, à Dieu et à l'homme. Pourquoi ? Parce que la signification de bon, on dirait en philosophie, la ratio boni. Donc la signification de bon n'implique en elle-même aucune imperfection. Bon s'oppose à mal. Ce qui est bon n'est pas mauvais. Et la bonté, bon, n'implique dans sa signification aucune imperfection. Et par le fait même, c'est un terme analogique que je peux attribuer à Dieu. Au contraire, je suis le pain. Dans sa signification, qu'est-ce que ça exprime ? Pain. Du bon pain. Du pain frais. Un petit pain. Pain. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie un aliment particulier fait à Paris. Oui. Comme j'ai dit, le café expresso fait en Italie. Il y a comme ça des œuvres particulières. La glace de Rome est particulière. Dit quelque chose. Bon, le pain. Aliment fait particulier, fait par l'homme. À partir du blé, à partir de l'orge, à partir du seigle, et ainsi de suite. Donc, le pain, dans sa signification propre, est toujours lié à un élément sensible. Vous n'avez jamais pensé le pain en soi. C'est le pain rêvé. Alors c'est le pain fait à Paris. Le petit pain frais, on voit très bien. Le pain est toujours lié à un élément sensible. Donc si je l'attribue à Dieu, je suis le pain véritable. Vous comprenez qu'à ce moment-là, ce n'est plus une signification propre. Même analogique, elle est métaphorique. Elle reste liée toujours à la première expérience du pain. Et c'est pour ça que j'ai dit analogie métaphorique. Parce que c'est lié au sensible. Mais, faisons attention, la parole de Dieu, c'est une parole divine. Même quand elle exprime un symbole, c'est un symbole. Le symbole ou l'analogie métaphorique, tout symbole repose sur analogie métaphorique. C'est un symbole divin. Puisque c'est Dieu qui l'emploie. C'est une analogie métaphorique puisée dans l'écriture. Donc elle est divine. Elle n'est pas seulement poétique. Quand je dis le lac rit, je suis devant une analogie métaphorique. C'est l'enfant qui rit. C'est le vieillard qui rit. C'est l'homme qui rit. Le singe ne rit pas. C'est la distinction propre de l'homme et du singe. Tandis que le singe peut hurler. Donc vous voyez que le cri, tais-toi, tu cries, tu es comme un animal. Quand tu souris, non. Tu dépasses le mur de l'animal. C'est vrai, pourquoi une mère cherche-t-elle le premier sourire de l'enfant? Pas le premier cri. Non, premier sourire. Parce que c'est le premier moment de la présence spirituelle. L'intelligence est présente dans un rire. Il ne parle pas encore, mais il sourit. C'est très mystérieux. La philosophie du sourire. Et c'est très important. Bien le gros rire gaulois. Alors c'est ce que c'est, tu vois. C'est quelque chose de particulier. Le sourire exprime le gros rire gaulois exprime la raison, pas l'intelligence. C'est pas intelligent, évidemment. Ça c'est lourd. Alors, l'analogie métaphorique est liée au sensible. Le symbole est lié au sensible. Et quand il s'agit d'une analogie métaphorique tirée de l'écriture, elle exprime une réalité. Elle n'est pas purement poétique. Quand je dis le lac rit, c'est métaphorique. Ne cherchez pas dans le lac une intelligence. Tandis qu'au contraire, quand vous dites que je suis le pain de vie, c'est Jésus qui le dit, il faut chercher une analogie métaphorique, le symbole du pain. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que Jésus est véritablement l'aliment. Non pas de notre vie biologique, mais de notre vie divine. Vous voyez bien la différence, j'espère, entre l'analogie propre et l'analogie métaphorique. Et seule une philosophie critique permet de discerner dans l'écriture les analogies propres et les analogies métaphoriques. Quelquefois, c'est très difficile. Je suis la lumière du monde. Quand Jésus dit « lumière du monde », c'est métaphorique. Quand on dit « Dieu est lumière », est-ce une analogie métaphorique? Est-ce une analogie propre? C'est juste à la lisière des deux. Très curieux. Le mot « lumière », « Dieu est lumière ». Ce qui me ferait dire que c'est plutôt métaphorique, c'est que dans la somme théologique de saint Thomas, c'est très peu employé. Dans son commentaire de saint Jean, c'est employé. Le commentaire de saint Thomas de saint Jean est d'ordre de théologie mystique. Tandis que dans la somme théologie scientifique, il y a un partage. Pouvez-vous préciser ce qu'est la nature? Alors avant, quel regard a-t-on sur le pain dans la philosophie de l'activité artistique? C'est pour ça que je reviens sur le pain et l'Eucharistie. Dans une philosophie artistique, le pain, c'est l'œuvre propre d'un artiste, d'un artisan. Tout le monde ne sait pas faire du pain. Essayez d'en faire. Vous verrez, ce sera raté. Pas si commode que ça de faire du bon pain. Du bon pain avec du voyez, un véritable artisan, un boulanger, un véritable boulanger, un vrai, pas le boulanger qui fait ça pour gagner le plus d'argent possible. Au bout d'un certain temps, il fait des choses désastreuses. Un boulanger qui aime le pain et qui sait que le pain est un aliment essentiel, qui fait du pain complet, du bon pain. Et on sait quand on prend du pain complet, on mange quelque chose. Tandis que quand on prend du pain tellement artificiel, c'est pas ce qu'on mange. Des feuilles. C'est pas très bien. Au point de vue artistique, le pain est l'œuvre artistique fondamentale. Pourquoi ? Parce que l'art artisanal qui est ordonné à l'aliment, ordonné donc à la santé, c'est l'art artisanal le plus fondamental. C'est plus fondamental de faire du pain que de faire des gâteaux. Tous d'accord. C'est plus fondamental de faire du pain que de faire une maison. Bien que faire une maison, c'est très utile aussi. Donc, c'est l'art artisanal le plus fondamental. Et donc, le pain va exprimer symboliquement le fruit de tout le labeur de l'homme. Et la même chose pour le vin. C'est une œuvre artisanale, mais faite pour l'homme et la santé de l'homme, que l'homme puisse vivre. Et le vin, pour que l'homme vive avec un peu de joie. Le vin réjouit le cœur de l'homme. Donc un peu de joie. On est tout le temps au régime de l'eau, c'est très bien, c'est excellent pour reposer votre foi, pas la foi surnaturelle, mais votre foi, excellent, reposer comme régime, on dit que c'est un régime, hein. Normalement, Saint Benoît avait le sens de ces réalités très fortes. Quand un monastère était dans un pays de vin, chaque religieux avait son C'est normal, c'est dans la règle de vie, dans la règle de Saint-Benoît. Quand on est dans un pays où il n'y a pas de vin, est-ce qu'il y a encore des moines ? D'autres choses. Vous voyez l'importance du vin. Tout de suite, vous le voyez. Le pain est beaucoup plus universel. Et le vin, pour réjouir le cœur de l'homme, symbolise ça. Parce que c'est l'œuvre artisanale par excellence. Le pain et le vin. Un vrai vigneron, c'est toujours admirable. Un vrai boulanger, c'est extraordinaire. Un vrai boulanger. Il n'y en a plus beaucoup. Il y a très peu d'artisans, du moins en France. En Italie, il y en a plus. C'est resté. Et c'est important, parce que vous voyez, ces coopératives de vin, mais ça tue le vin. C'est évident. Heureusement qu'il y en a encore qui font le vin récolté dans la propriété. Bon, on sait que c'est du vin. Autrement, entre deux, il y a eu le commerce. Bon, le vin et le pain expriment symboliquement le fruit du labeur humain, du travail humain. Oui. Et c'est ce qu'il faut comprendre dans la nouvelle liturgie. Tu es béni, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. d'avoir donné ce pain, d'avoir donné ce vin. C'est tout le labeur de l'homme qui est pris. Je me souviendrai toute ma vie quand celui qui est devenu le cardinal Cardenne, celui qui avait lancé la joque en Belgique, qui aimait, si j'insiste, d'une façon étonnante. Il venait souvent ce soir, c'est pour ça que je l'ai bien connu. J'ai connu dans deux lieux différents, au Sochoir en Belgique, où il venait souvent, et puis à Toulouse. Alors c'était particulièrement curieux d'entendre le chanoine Cardenne à Toulouse, parce que c'était pas le même accent. Mais il disait au Sochoir, quand je dis la messe à l'offertoire, c'est tout le fruit du labeur de mes ouvriers que je porte à Dieu. Je dis ma messe en portant tous ces travailleurs. C'était très beau. Le fruit du labeur. Et c'est vrai. Le travail, de travailler non pour la nourriture périssable, mais pour la nourriture que vous donne le Fils de l'homme. Saint Jean, chapitre 6. Le travail humain demande d'être finalisé d'une manière divine par l'Eucharistie. Et le symbolisme du pain et du vin exprime ça. Parce que c'est l'œuvre artisanale par excellence. Vous ne pouvez pas trouver une œuvre artisanale, plus fondamentale que celle du pain et du vin. Et les deux extrêmes. Le pain, c'est absolument nécessaire, et le vin, c'est du luxe. Mais un luxe de joie, qui d'une certaine manière n'est pas du luxe. Dans les pays où il n'y a pas de vin, c'est un peu du luxe. Dans les pays où il y a du vin, c'est pas du luxe. C'est pour ça, les pays de vignerons, il y a toujours quelque chose qui chante davantage. Particulièrement. Alors, je reprends un instant la problématique entre le pain de vie et l'Eucharistie. Très vite, hein. Je suis le pain véritable. À la manière de Saint Jean, hein. Véritable. Dans l'évangile de Jean, revient constamment à l'été, véritable. C'est quelque chose qui qualifie la lumière véritable, le pain véritable, pour donner à ce qui est qualifié sa valeur d'authenticité. On dirait aujourd'hui, quand on dit quelque chose est authentique, d'authenticité, c'est pas du temps. C'est le pain véritable, c'est-à-dire l'aliment par excellence. Je suis le pain véritable, l'Eucharistie. Jésus dit, ceci est mon corps. Et Jésus prend dans ses mains le pain, azim, sans levain. Le ceci exprime le pain. Exprime les apparences, ça montre les apparences du pain. Mais en réalité, c'est le corps du Christ. Quand Jésus dit « Je suis le pain » et le pain véritable, ce n'est donc pas l'Eucharistie. C'est lui. C'est pour ça qu'au terme de ce discours, il dit « Ma chair est vraiment une nourriture ». Il ne dit pas « Moi, pain, je suis une nourriture, ma chair ». Donc vous avez le pain, vous avez la chair, et vous avez l'institution de l'Eucharistie. ceci est mon corps. Il faut mettre tout ça en parallèle. Pour essayer de comprendre comment, quand Jésus dit « Je suis le pain véritable », Jésus montre, révèle une dimension particulière de sa personnalité. Il est le pain véritable. Le théologien cherche à comprendre comment. Est-ce le mystère d'incarnation ? Non. C'est le mystère de l'incarnation qui s'achève dans la rédemption. Oui, la croix. Le blé est moulu. Et le blé est donné. Donc c'est la croix. C'est la croix et l'Eucharistie qui signifie que la chair du Christ est vraiment pour nous une nourriture. Vous voyez, l'Eucharistie est une pédagogie qui nous aide à entrer pleinement dans la contemplation chrétienne du mystère du Christ. Et par la contemplation du mystère du Christ, j'entre dans la contemplation du Père et de la très sainte Trinité. Les sacrements sont une pédagogie, sont des moyens divins, des signes et des instruments. Pédagogie divine, donc quelque chose qui est relatif au mystère. C'est le mystère que je contemple. Je ne contemple pas les sacrements. J'en use divinement. Je contemple la personne du Christ. Je contemple le Père. Je contemple l'Esprit Saint. Donc, voyez bien, ce que je vous avais dit, est-ce qu'il faut faire pain de vie? Ordonner l'Eucharistie. L'Eucharistie. Si l'Eucharistie est une pédagogie, je remonte à la source et je contemple la source, Jésus, pain de vie. Mais c'est vrai de dire aussi que quand Jésus dit « Je suis le pain véritable », ça nous aide à comprendre ceci est mon corps, en montrant les apparences du pain. Mais il faut bien comprendre que les sacrements sont une pédagogie divine qui conduit à la contemplation. Parce que c'est les sacrements de l'amour. Et la source des sacrements demande d'être contemplée. C'est le Christ crucifié. Comment ? Alors maintenant nous allons rentrer dans... Oui, donnez-nous notre pain quotidien. Quelle extension donner au mot pain? Donnez-nous notre pain quotidien. C'est une demande d'avoir la nourriture tous les jours. Mais en même temps, symboliquement, ça demande le pain spirituel. Exactement comme nous devenons par la charité fraternelle le pain de nos frères. Un frère dit à son frère, je suis ton pain. Alors le frère répond, oui, il est un peu sec. Il a besoin de beurre et de miel les jours de fête. Bon, très bien ça. Si vous êtes un iceberg dans la charité fraternelle, c'est un peu sec. Il y a des gens qui sont comme ça dans la charité fraternelle. Alors l'Eucharistie fait de nous le pain de nos frères, c'est-à-dire nous sommes donnés comme serviteurs, fidèles, doux, pauvres. C'est un langage symbolique, c'est évident. Mais c'est véritable dans le sens où la charité fraternelle fait vraiment de nous d'être relatif à nos frères. Et nous sommes le pain de nos frères. Serviteurs de nos frères dans la charité fraternelle. Comment situer la conscience dans la faculté de l'âme? La conscience n'est pas une faculté. C'est la propriété du jugement, c'est-à-dire d'un acte de l'intelligence, un acte parfait. Je suis conscient dans la mesure où je pense. Et dans la mesure où je pense d'une manière plus ou moins parfaite. La conscience relève de l'intelligence. Alors, il y a une conscience morale. Il y a une conscience artistique, il y a une conscience amicale, il y a une conscience intellectuelle, il y a une conscience de sagesse. Tous les degrés de la vie intellectuelle, ça vaut une conscience morale. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais ce que nous faisons ? Conscience morale, conscience sapientiale dans la lumière de la sagesse de Dieu, conscience amicale dans l'ordre de l'amitié, conscience artistique, l'artiste est conscient de ce qu'il fait. Il dit ça va ou ça va pas. Il s'arrête de temps en temps. Chez l'artisan, on voit ça. Et chez le véritable artiste, on voit ça. Il s'arrête. Est-ce que c'est bien ? Cet exemple que je donne souvent, parce que ça m'avait beaucoup frappé, c'est au Saulchoir, cet artiste breton, habitué à sculpter du granit. Il était animalier. Il faisait des petits rats. Merveilleusement. Il a demandé de faire une vierge pour le Saulchoir, donc pour notre couvent du Saulchoir dominicain. Il a hésité. Il a dit, je veux bien si je la sculpte chez vous. Est-ce que je peux venir habiter 6 mois chez vous ? Il a dit, c'est évident. Alors c'était merveilleux. Il était là chez nous. Parler tous les jours. Ça m'intéressait beaucoup. De voir ce sculpteur animalier devenir sculpteur d'une statue de la Vierge Marie. Cette conversion en lui. Il avait choisi son granit. Ah, il me l'a dit comment il avait choisi. C'est une statue grandeur naturelle. Il avait une petite maquette merveilleuse. Très belle, puis sculptait lui-même. Un beau jour, je le vois triste. Triste. Je dis, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ? Alors il me montre. Il y avait eu un éclat. Il était en train de sculpter la tête. Il m'a dit, j'avais pas vu cette veine. Il y a eu un éclat. Deux mois de travail perdu. Il a passé toute sa journée à prier. Puis le lendemain, je le retrouve. Il retravaillait, tout joyeux. Il a dit, qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai prié. J'ai compris. En moi, il y a encore l'artiste animalier. La Vierge est plus souple. C'était beau ça. Et voyez, j'avais fait la tête comme ça, et il faut la faire un tout petit peu plus inclinée. Pour un animal, ça n'irait pas, mais pour la Vierge, oui. Ça, c'est vraiment la conscience de l'artiste. Un artiste chrétien. Passage de l'animalier à l'artiste chrétien. C'est rare qu'on saisisse ça sur le fait. Parce qu'ordinairement, surtout les sculpteurs, ils m'avaient dit ça, Bob, parce qu'on était devenus des amis. Vous pouvez tout me dire, mais il n'a rien dit. Aux autres qui passaient, ils passaient. Ils disaient pas son secret. Donc la conscience qualifie un jugement. Et la conscience, il y a la conscience du mathématicien. Il y a une rigueur plus grande que la conscience amicale de l'ami. Il y a une conscience du philosophe. Un vrai philosophe doit à chaque instant pouvoir justifier ce qu'il dit. Je dis ça à cause de telle, telle chose. À chaque instant. Puisque la critique lui donne cette conscience très aiguë de ce qu'il dit. Donc vous voyez, la conscience, c'est pas une faculté, mais c'est ce qui accompagne notre jugement. Ce qui montre qu'une philosophie de la conscience demande d'aller beaucoup plus loin. Parce que c'est la philosophie d'une propriété. Et c'est pas la philosophie de la réalité, de la nature. Seulement la propriété. Alors, on me demande de revenir un instant, du reste, j'ai compté, sur le point de vue de la nature et de la personne. Nous allons continuer. Le mystère de l'union hypostatique. C'est-à-dire de l'union dans la personne du Christ, la nature humaine. Qu'est-ce que c'est que la nature humaine? Cherchez dans le dictionnaire, hein. Qu'est-ce que la nature humaine? Tiens, j'aurais dû l'amener. Selon le langage commun, la nature humaine, ce n'est pas la nature angélique, ce n'est pas la nature animale. Bien que, on dira, dans la nature humaine, il y a une parenté entre l'homme et l'animal. Il y a le genre animal. L'homme implique ça. Puis, il y a quelque chose de particulier, ce qui spécifie l'homme. C'est que l'homme est un animal raisonnable, à ses heures. Intelligent. Bon, c'est vrai, je peux définir la nature humaine, animal raisonnable. Mais voyez, c'est une définition logique. Elle n'est pas philosophique. Donc en réalité, on regarde l'espèce. L'espèce est un terme logique. C'est ce qui est défini. Veut classer un classement scientifique des différents animaux. La nature exprime quelque chose de réel. Très souvent, on confond, vous voyez, on parle de l'évolution des espèces. On ne voit pas qu'en disant ça, on fait, au point de vue du langage, une erreur complète. On devrait parler de l'évolution de la nature. Pas des espèces, puisque les espèces, c'est un terme logique. L'espèce n'évolue pas. L'espèce, c'est dans un classement. Et peu importe ici, hein. On confond très souvent entre les deux. En réalité, nature exprime une réalité particulière, ou vivante, ou non vivante, nature vivante, impliquant l'intelligence, l'esprit, ou l'impliquant pas. Et quand je dis nature humaine, je dis corps et âme. Âme spirituelle. Voilà la nature humaine. Et quand je disais que lorsque l'Église se sert d'une expression qui a une origine philosophique, le mot nature a sûrement une origine philosophique. La Torah, la nature. En grec, phousis, la nature. Quand l'Église se sert d'une expression philosophique, l'Église s'en sert selon la signification commune. Qu'est-ce que c'est que la nature ? Demandez autour de vous. Qu'est-ce que c'est que la nature humaine ? Alors vous verrez des gens qui diront, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous représentez la nature humaine ? Est-ce que vous êtes un représentant de la nature humaine ? Oui, chacun d'entre nous. Nous sommes une émergence de la nature humaine. Nous sommes quelqu'un qui est un homme, qui implique la nature humaine, corps et âme. C'est le terme commun, signification commune de nature humaine. La signification philosophique serait différente. Elle serait différente selon Aristote, selon Platon, selon les stoïciens, selon les néoplatoniciens. Chaque philosophe donne au mot nature une signification propre à sa philosophie. Ça, c'est vrai. Pour Platon, qu'est-ce que c'est que la nature humaine ? Je vous donne ça exprès. Du corps et de l'âme. Pour les stoïciens, qu'est-ce que c'est que la nature ? C'est la réalité physique qualifiée. La nature de l'eau, la nature du feu, la nature humaine. Mais il n'y a plus d'âme. Le mot âme s'est introduit dans la philosophie grecque grâce à l'influence de l'Inde. Jamais l'oublier, ça. Les meilleurs historiens de la philosophie grecque le soulignent. C'est Platon et Aristote qui parlent de l'âme. Et Platon, en raison de l'influence de l'Inde sur sa philosophie. De plus en plus, on voit que Platon a été influencé par l'Inde. C'est du reste très beau. Et dans les traditions religieuses, il y a toujours la distinction du corps et de l'âme. La distinction du corps et de l'âme est une distinction qui est premièrement religieuse, qui relève des traditions religieuses. Alors, Platon l'introduit dans sa philosophie, et Aristote fait la même chose. Mais ne disons pas que l'âme provient de la Grèce. Ceux qui disent ça, ils montrent leur ignorance. Tout simplement. Et ça se dit tout le temps aujourd'hui. C'est pour ça que je le dis. Parce que je veux souligner les bêtises qui se disent aujourd'hui. Il faut quand même être de temps en temps un peu à la manière de Socrate. J'ai vu ça combien de fois. La distinction de l'âme et du corps, c'est une distinction philosophique aristotélicienne. Mais non, elle est de l'âme. Alors, dès qu'on dit que c'est l'Inde, tout le monde courbe la tête. Ah, c'est. Dès qu'on dit que c'est la Grèce, ah non, je dis. Mais l'Inde, or c'est vrai, ça. Je dis pas ça apologétiquement, je dis ça en toute vérité. C'est que la distinction du corps et de l'âme vient des traditions religieuses de l'Inde. Platon a voulu montrer que ces traditions avaient un fondement philosophique. Et Aristote a fait la même chose. Le philosophe peut purifier les traditions religieuses. Et c'est un des grands rôles de la philosophie. Et c'est pour ça que c'est si grave aujourd'hui de refuser l'âme. C'est très grave. C'est le fruit de la sécularisation. aujourd'hui, où toutes les traditions religieuses sont tout proches de chez nous. C'est vrai. Les traditions religieuses sont là. On va visiter en France, en Italie, des monastères qui sont sous l'influence directe de l'Inde. Immédiatement, on en rencontre, du reste. Je me souviens, à côté de Fribourg, il y avait un monastère hindouiste. C'était bien, et on allait là pour avoir une journée de désert. Alors vous voyez, c'est le jour où toutes ces traditions sont tout proches de nous, que nous, de traditions chrétiennes, on refuse l'arbre. C'est terrible, tout ça. Là, on monte à la laïcisation. Et, vous voyez, beaucoup plus que ça, un a priori anti-religieux qu'on ne peut pas accepter. Je comprends très bien combien le Saint-Père lutte contre ça aujourd'hui. Parce qu'il sent que c'est un a priori anti-religieux. Je vous dis, j'ai fait l'expérience. Ce que je dis là, ce n'est pas du tout abstrait. C'est une réaction que j'ai vue de théologiens, de jeunes théologiens. Ils disent, on ne peut plus parler d'âme aujourd'hui. Bon. La nature humaine, corps et âme, c'est tout. Le corps, on sait bien ce que c'est. L'âme, nous en avons tous une expérience affective de notre âme. Par l'intériorité. Celui qui vit d'une certaine intériorité, c'est qu'il y a en lui une source de vie spirituelle. Naturelle. Je réfléchis sur... On médite, quoi. Quand vous méditez, c'est l'intériorité. Vous savez bien, vous êtes visible par votre corps. Et votre âme, c'est la source invisible qui anime votre corps. Et la mort, on n'en a pas l'expérience. Hein. C'est bien dommage. Si on avait l'expérience de la mort... Je crois qu'à ce moment-là, on aurait l'expérience d'une âme séparée. Et alors, on ne refuserait plus l'âme. Mais la mort, on en a une expérience médiatisée. Quand on assiste à la mort d'un ami, d'une mère, d'un frère, d'un père, d'un grand-père, il y a quelque chose. À un moment donné, c'est fini. On est devant un cadavre. Extérieurement, le corps est là. Mais c'est plus un corps humain. C'est un cadavre. Mais il n'y a plus de réponse. Et là, on fait l'expérience négative de l'âme. Pas nier qu'il y a quelque chose. Alors, évidemment, je peux très bien dire « Ah, je ne veux pas le regarder, je ne veux pas le regarder. » Parce que beaucoup de personnes ne veulent pas regarder la mort. Ça leur donne des angoisses. C'est vrai, psychologiquement, c'est que la mort est source de l'angoisse. C'est sûr. Mais justement, pour éviter l'angoisse, il faut peut-être aimer son âme. Parce que je me demande si toujours l'angoisse ne provient pas d'un manque d'amour de l'âme. Oui, parce que l'angoisse est une sorte de vide imaginatif, un vide terrible, l'absence. Quand il y a une présence, il n'y a pas d'angoisse. C'est pour ça que quelqu'un qui est angoissé, et quelquefois son petit chien l'aide beaucoup. Ou le gros chien l'aime beaucoup, ça l'aide. Il y a au moins quelqu'un de vivant qui est à côté de moi. Il y a un ami. Vous aidez quelqu'un qui est angoissé quand vous êtes un ami. faites comprendre que vous êtes là pour lui. Parce que l'angoisse, il faut y réfléchir beaucoup aujourd'hui, psychologiquement et philosophiquement. Et donc, il faut réfléchir à la mort. Et la mort, séparation de l'âme et du corps. C'est pas l'annihilation. Non. Séparation de l'âme et du corps. Alors, vous avez une connaissance positive, directe, de l'âme, par l'intériorité. Quand vous méditez, quand vous essayez de comprendre ce que vous êtes, pas votre corps, c'est autre chose. Donc, je n'insiste pas plus. La personne, puisqu'il s'agit de distinguer nature humaine et personne. La personne n'implique pas l'analyse de l'âme et du corps. La personne, c'est quelque chose de plus concret que la nature. Vous voyez, nous avons tous la même nature humaine. C'est pour ça qu'on peut se parler. Parce que si vous aviez une nature angélique, vous ne seriez pas là. Si vous aviez une nature, je ne sais pas, un martien, très particulière, une nature de martien, je pense que ce serait. Mais vous n'auriez pas la nature humaine. On a tous la même nature. On arrive à se comprendre. Même s'il y a des équivoques, des difficultés, on arrive à se comprendre. Parce qu'il y a quelque chose de commun qui nous unit. La personne, chacun d'entre nous, nous avons notre personne individuelle. Il n'y a pas une personne commune. Vous êtes, je ne sais pas, je compterai. Alors, 70 personnes, donc il y a la grosse personne. 70. Non. C'est la même nature et c'est chacun des personnes différentes. Vous voyez, la personne implique l'individualité. La personne implique une certaine autonomie. La personne indique qu'on est responsable de nos activités. La personne implique une certaine dignité qui se fonde du reste sur l'âme spirituelle. Je ne dirai jamais, en voyant une vache, qu'elle est une belle personne. Non. Jamais. Tandis que la vache a une nature. Est propre à celui qui a conscience de ce qu'il est. Ah, vous voyez, la conscience, la connaissance. Alors, il y a toute une recherche sur la personne au plan philosophique. Ici, je prends simplement le fait de la personne, c'est l'autonomie dans l'ordre de l'être. La personne, c'est celui qui subsiste par lui-même. Mon bras est une partie de ma personne. Ce n'est pas une personne. Et si je coupe mon bras, je ne dirais pas que mon bras est une personne. Je dis que c'est une partie. Il est relié à moi, à mon individu. Et c'est l'autonomie dans l'ordre de l'être qui fait que la personne implique ce fait de subsister en elle-même. Et d'être capable de poser des opérations. La nature est source d'opérations, mais la personne est responsable de ces opérations. Elle subsiste dans son être. Elle subsiste dans ses diverses opérations. Elle est capable de transformer un autre qui n'est pas lui. En gros, vous voyez, je crois qu'on peut tous distinguer. La personne est un tout. C'est un tout, la personne. Mes cheveux font partie de ma personne. C'est pour ça que c'est normal de pleurer quand vos cheveux tombent. parce que c'est vrai, perte de votre individualité extrêmement originale, puisqu'on distingue les lions d'Asie et les lions d'Afrique selon leur crinière, donc ça fait partie de certaines distinctions de l'animal. C'est les propriétés. Vous avez des propriétés qui affectent votre personne, que vous aimez plus ou moins. On est tous attachés à certaines valeurs de la personne. Vous voyez, c'est un tout, la personne. Tandis que la nature exprime quelque chose de beaucoup plus précis, de spécifique. La nature, tout de suite, distingue dans un classement la nature humaine de la nature bovine, de la nature des insectes et des autres animaux. Bon, ceci c'est simplement pour que nous comprenions mieux comment le théologien, devant le concile de Chalcédoine, dit le mystère du Christ, c'est l'union de la nature humaine et de la nature divine. Union qui ne se fait pas au niveau de la nature. Les deux natures demeurent distinctes dans une unité personnelle. Alors, je vais vous lire l'article qui est long, mais pas tellement. Le mot « personne » n'a pas la même signification que le mot « nature ». Ce dernier, en effet, désigne l'essence qui spécifie un être et que la définition exprime. Donc, le caractère de spécification, de détermination. Si rien d'autre ne pouvait venir s'adjoindre dans un être aux éléments spécifiques, nul besoin ne serait de distinguer la nature de son suppôt. Ah, autre distinction. Alors ça, c'est un terme très particulier dans le langage habituel, suppôt. On parle de suppôt du démon. C'est pas du tout la même chose, hein, ici. Suppôt, c'est un terme plutôt logique. Ça vient de sujet. Supponite, celui qui est capable de recevoir tel ou tel accident, telle ou telle qualité. Si rien d'autre ne pouvait venir s'adjoindre dans un être aux éléments spécifiques, nul besoin ne serait de distinguer la nature de son suppôt. Le suppôt est toujours individuel. Celui-ci étant précisément l'individu subsistant dans la nature. Tout individu subsistant dans une nature quelconque serait identique à celle-ci. Donc saint Thomas distingue ici nature universelle de suppôt, qui veut dire l'individu. Individu. Je suis un individu. Je suis un suppôt. Pas méchant. Je suis un suppôt. Et quand vous dites ce chien n'est pas méchant, ce suppôt n'est pas méchant. Cet individu de l'espèce canine, je vous affirme, il n'est pas méchant. On lui a limé les dents. Il n'est pas méchant. Ils sont faits pour les chats, vous savez. On lui lime les ongles de chat, alors il ne griffe plus. Du moyen. C'est extraordinaire, ça. Alors, distinguer la nature de son suppôt, celui-ci étant précisément l'individu subsistant dans la nature. Tout d'individus subsistant dans une nature quelconque serait identique à celle-ci. Mais il arrive que dans certaines réalités subsistantes, l'on trouve des éléments qui n'appartiennent pas à son essence, donc à sa nature. L'essence ici pris comme nature, comme les accidents, les principes individuants. C'est évident. Je pèse 110 kilos. Ça ne fait pas partie de ma nature. Ça fait partie de mon individu. Je fais une cure d'amaigrissement. Au terme, je pèse plus que 50 kilos. Alors, il y a la photographie avant et après. C'était, je me souviens, cette chose très extraordinaire. C'est réel ce que je vous dis là. C'est pas passé dans les journaux. C'était passé de quelqu'un qui l'a vu qui me l'a raconté. C'est un de mes neveux qui est du Texas. Alors au Texas, les phénomènes sont toujours très grossissants. Alors il avait assisté, c'est au début des charismes, de toutes les communautés charismatiques. Et alors il revenait du Texas, et puis il m'a posé cette colle. J'ai vu quelque chose d'assez extraordinaire. C'était, pour les cérémonies charismatiques, c'était à la fois chez les catholiques et chez les protestants. Là, c'était chez les protestants. On a prié. Lui est catholique. On a prié. Et puis quelqu'un s'est levé. Il a dit, je me sens poussé par l'Esprit Saint. Tous ceux qui souffrent, qui ont une maladie, qu'ils viennent. Je prierai sur eux. J'imposerai les mains. Alors à ce moment-là, on a vu une procession de malades qui étaient là. Ils entraient dans le cœur, elle était à l'extrémité de l'église. Elle imposait les mains. Le malade tombait, puis se relevait, guéri. Et dans cette procession, il y avait le dernier, qui était un petit tonneau. Énorme, il souffrait d'obésité. C'est une maladie comme une autre. Énorme. Alors évidemment, tout le monde le regardait. Spectacle. Je vous affirme, il m'a dit ça comme ça. Hein. Il est entré, dernier. Elle a posé les mains. Il est tombé. Il a maigri de 20 kilos. La question posée par mon neveu, est-ce un prodige ou un miracle? La maigrie de 20 kilos. Vous pouvez le constater. Son pantalon était comme ça. Évidemment, je comprends.